Il est 7h35. Vous savez, parmi les conférences de presse quotidiennes les plus suivies, il y a celle du gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, qui est un excellent animateur, d'ailleurs. C'est vrai, on reste suspendu à ce qu'il dit. Et hier, ça a pris une drôle de tournure parce qu'il a subi un test en direct. En fait, subir, c'est un grand mot, parce qu'il voulait montrer aux gens de New York que ça faisait pas mal, que c'était pas long, que c'était pas si désagréable que ça. Richard Châteauvert à New York, bonjour.
Bonjour Paul, je savais que ça retiendrait votre attention.
Certains,
quand
c'était...
j'ai vu.
Ben, le gouverneur qui se fait tester en direct.
Quel showman, hein?
Ouais.
Non, c'est drôle que quand vous disiez à Valérie qu'il faudrait remplacer Biden par Obama, je me suis dit, pourquoi il n'a pas dit remplacer Biden par Andrew Cuomo?
Ce serait aussi bon. Ce serait toute une bataille. Vous avez raison. Vous avez un gouverneur qui est un excellent animateur aussi.
Non, chaque jour, il annonce quelque chose de neuf. Et là, encore une fois, il faut dire qu'il a agi en retard. Il a agi avec une semaine de retard. Au début mars, la maire de San Francisco a envoyé son plan de déconfinement à Bill de Blasio et Andrew Cuomo. Et Bill de Blasio était prêt à le mettre en œuvre et Andrew Cuomo a résisté. Il reconnaît aujourd'hui qu'il a agi avec retard, mais depuis ce temps-là, il s'est repris. Et vous savez que nous testons plus ici dans l'État de New York que dans tous les pays du monde, y compris le Canada. Quand Donald Trump dit que les États-Unis testent plus que tous les autres pays, ce n'est pas vrai. Mais pour le seul État de New York, c'est tout à fait vrai. Et nous avons 40 000 tests par jour. C'est quand même remarquable. Ici, Bill de Blasio a annoncé hier qu'il y avait 123 points d'un système de santé privé. Ça s'appelle CityMD. Les New Yorkais vont pouvoir se présenter là et subir un test de dépistage. On a également des tests sérologiques. Donc, sur le plan des tests, ça va très bien. Où ça va pas très bien, c'est les foules. On a vu des foules partout aux États-Unis, mais ici à New York, dans Upper East Side, il y a les jeunes dans la vingtaine, il y a une série de bars qui permettent, ils n'ont pas le droit d'accueillir des clients, mais ils ont le droit de proposer des plats et des consommations à emporter. Donc les gens se commandent un cocktail et là ils boivent sur le trottoir, ils sont en groupe. Ils ne portent pas de masque, ils sont indisciplinés. On a vu des images incroyables sur les plages, deux endroits, à Bellemare au New Jersey et à Ocean City. Je vous jure, Ocean City, là, sur la promenade de planche, c'était comme un été ordinaire, comme l'an dernier, il y a deux ans. Les gens étaient ensemble, pas de distanciation, pas de masque. Paul, nous entrons vraiment dans une période laboratoire, pas seulement ici aux États-Unis, mais dans le monde entier.
Ici ou chez nous aussi, là.
Parce que tout le monde, tous les pays rouvrent leurs économies. C'est exact. Sûr que deux mois de confinement, là, ça suffit, on a un trop-plein, on veut sortir. Mais là, les gens sont complètement indisciplinés. Ça va se répercuter dans le nombre de cas, le nombre de décès. Puis est-ce qu'il va y avoir reconfinement plus tard? Ben, c'est ce qu'on verra. Mais aujourd'hui...
Vous avez vu les chiffres sur le Texas, là?
Oui, le Texas, là, c'est 1800 nouveaux cas samedi seulement, dont 700. Mais il y a 700 dans une usine de transformation de la viande dans la région d'Amarillo. Ça, c'est un autre cas. On a quatre grands groupes qui contrôlent la transformation de la viande. Et en plus de ça, le président Bush a forcé les travailleurs à rentrer au travail. Ils travaillent dans des conditions, là, c'est pas descriptible. Ils sont proches les uns des autres. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de cas. Il y a eu des augmentations de cas dans 5 États américains. Et ce qui est intéressant, c'est que le Wall Street Journal a fait une enquête. Et dans les deux semaines qui se sont terminées, le 4 mai, le nombre de nouveaux cas en région rurale a été supérieur de 30% au nombre de nouveaux cas dans les agglomérations urbaines. On sait qu'au début, c'était toutes des grandes régions. Mais évidemment, New York est toujours l'épicentre, mais les grandes villes, il y avait la Nouvelle-Orléans, Chicago, Philadelphie, Détroit. Et évidemment, il faut rappeler, les villes votent démocrates, les régions rurales votent républicains. Donc, des 2200 comtés qui ont enregistré des nouveaux cas dans les deux semaines terminées le 4 mai, 80% avaient appuyé Donald Trump en 2016. On ne sait pas ce que ça va donner. Je trouve ça intéressant parce que comment ça va être dans un mois? Les CDC, les Centers for Disease Control, projettent maintenant 100 000 morts. On est rendu à près de 90. Donc, d'ici le 1er juin, là, d'ici une semaine et demie, on va être rendu à 100 000. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens sont incapables d'être disciplinés.
Ben oui. Et vous l'avez dit, ce pays est une mosaïque. Quelqu'un qui vit au Wyoming n'a rien à voir avec quelqu'un qui vit en Californie ou qui vit chez vous à New York.
Ça, vous faites bien de le dire parce qu'il y a tellement de gens dans le monde entier qui disent « Ah, les Américains! »
Non, ne dites
c'est
jamais!
Les Américains, vous le dites, c'est un pays... Il n'y a pas de pays plus diversifié. Il n'y a pas un État qui... Le Vermont ne ressemble,
ben voilà.
Ne ressemble sûrement pas à l'Alabama. C'est la Pennsylvanie. La Pennsylvanie, c'est il y a deux villes, Pittsburgh et Philadelphie, ouais. Et entre les deux, c'est complètement rural.
Oui.
C'est un pays vraiment vraiment étonnant.
Vous avez bien raison de le dire. Moi, ce qui m'a frappé dans la conférence de votre gouverneur Cuomo hier, c'est qu'il a dit. Nous avons une offre supérieure à la demande pour les tests.
Ça, c'est vraiment remarquable.
Mais c'est remarquable, certains. Il a dit, on a 700 places qu'on peut vous tester. Venez vous faire tester. Ça, c'est un revirement de situation. On n'aurait jamais pensé ça au début de la crise, Richard.
Mais c'est pas le cas dans l'ensemble des États-Unis, encore une fois. Les études de l'Université de Harvard disent qu'on devrait tester 1 million. Il y a une autre étude qui dit 5 millions par jour. Il faudrait tester pour savoir vraiment, vraiment pour connaître l'évolution de la maladie, c'est d'une façon granulaire. C'est ça qui va nous permettre de vaincre ce virus, c'est de savoir qui a été testé positif.
Et vous savez, Richard, excusez-moi, ce que vous dites, je veux pas l'oublier, ce que vous dites est tellement important. Hier, nous avions notre entrevue avec le docteur Nima Machouf, épidémiologiste, et elle aussi disait notre sécurité passe par les tests en sachant que ce virus peut se transmettre par des gens qui n'ont pas de symptômes, qui sont asymptomatiques. Elle dit, si on avait la capacité là, de pouvoir tester tout le monde à intervalles réguliers, probablement qu'on pourrait mettre ça derrière nous. Elle n'a pas dit ça comme ça, là, mais c'est ça que ça voulait dire.
Non, c'est tout à fait vrai. Bien que notre président ici... Il a tenu une conférence de presse lundi dernier sur les tests, encore une fois pour se vanter d'être le pays qui teste le plus, mais ça ne l'intéresse pas parce que pour lui, plus on teste, plus ça augmente le nombre de cas et plus ça assombrit sa campagne électorale. Alors, il voudrait qu'il y ait moins de cas, donc qu'il y ait moins de tests. Il l'a dit, c'est pas moi qui le dis, hein, vous savez, il l'a dit. Mais là, je vais vous raconter une histoire intéressante à ce sujet-là. Vous vous souvenez le porte-avions Theodore Roosevelt qui était dans le sud du Pacifique. Il y avait eu 940 marins qui avaient été testés positifs. Ben là, il y en a 13 qui avaient déjà été testés positifs. Ils étaient asymptomatiques. Par la suite, ils ont été testés négatifs à deux reprises et voilà qu'ils sont à nouveau testés positifs et là, ils ressentent des malaises, des maux de tête, des malaises au corps. Alors là, est-ce que ça veut dire qu'effectivement, on ne peut pas acquérir une immunité si on a déjà contracté le virus?
Mais c'est la même chose qui est arrivée en Corée du Sud. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, on était tout énervés parce qu'il y avait 134 nouveaux cas de gens qui avaient pourtant eu la COVID-19, qui avait été rétablie, puis on l'avait retesté, mais on s'est aperçu qu'il y a dans les nouveaux tests qui sont faits des résidus de la COVID-19.
C'est ça, ce sont des résidus.
Des résidus, c'est pas ils sont pas réinfectés.
Mais est-ce qu'on le sait avec certitude
non.
À ce stade-ci, là, en ce 18 mai, on ne le sait pas. C'est ça qui est fascinant avec ce virus.
Rien.
On en apprend tous les jours.
Vous entendez une chose de l'OMS une journée, le lendemain, non, attention. C'est comme, et le gouverneur, comme beaucoup de parents d'ailleurs, inquiet au sujet de ses enfants qui semblent avoir développé ce qu'on appelle la maladie de Kawasaki.
Oui, hein? Ils lui ont donné le nom de syndrome inflammatoire grave chez les enfants. Bon. Il y en a 100, juste à New York, il y a 137 cas. Dans l'État de New York, il y a eu 3 décès. Il y a des cas dans plus de 20 États américains. Ça, on en parle. Chez vous, il n'y en a pas vraiment. Est-ce qu'il y en
non,
a?
Non, on n'a pas. On a eu un décès d'un enfant au début ici de la pandémie, c'est tout. Mais on ne parle pas autant, avec autant d'inquiétude, de ce fameux syndrome de Kawasaki, là.
Mais j'ai l'impression que ça va arriver.
Ben, écoutez, tout peut arriver. C'est une pandémie mondiale.
C'est-à-dire... Paul, c'est que je répète, on entre dans la période laboratoire.
Vous
Qu'est-ce
avez
qui va
raison.
Se passer avec tous ces gens qui s'agglutinent dans les bars, sur les plages? Comment ça va se passer? En plus de tout ça, vous savez que la propagation n'est pas égale dans toutes les régions. En Iran, il y avait un grand nombre de cas, et dans le pays voisin, l'Irak, il y en avait presque pas.
C'est vrai.
C'est la même chose. On peut pas savoir si dans un.
C'est vrai.
Ça veut pas dire que si on en a dans l'État de New York, qu'il va y en avoir dans d'autres États. Ouais. Mais là, on remarque de plus en plus qu'en région rurale aux États-Unis, et ils ont très peu d'hôpitaux dans ces régions, et ça, le nombre de cas augmente tranquillement. On n'a jamais vécu ça, Paul. La dernière fois, c'était 1918 avec une deuxième vague extrêmement importante, vous savez. Enfin, on en a parlé. Alors, qu'est-ce qui va se passer à l'automne? Ça, c'est l'autre inconnu.
Merci beaucoup. Bonne semaine, Richard. J'ai hâte de vous reparler parce que la semaine prochaine aussi, ça va être un autre week-end laboratoire pour vous.
Le Memorial Day.
Et ça, j'ai hâte vraiment de vous reparler dès samedi. Bonne semaine, Richard.
À vous aussi, Paul.
Plus tard, justement, Richard a tellement raison. Nous entrons, et ici aussi au Québec, et au Canada, et partout, nous sommes un seul monde. Nous entrons là, à partir d'aujourd'hui et demain, là, dans les prochaines semaines, dans une sorte de laboratoire. On va regarder comment ça se passe. Et nous, plus tard dans l'émission, nous irons en Italie, qui a été le premier épicentre de la vague, disons, européenne, qui a été si durement touchée. Aujourd'hui, en Italie, débute ce qu'on appelle la phase 2 de la relance, du déconfinement. Les Italiens peuvent retourner au restaurant et nous irons en Italie pour voir comment ça va se passer aujourd'hui.